on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur RMC, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30, les amis. Le 32-16 est bien sûr ouvert. C'est Amina qui vous répond ce matin. Rejoignez-nous. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Mathieu Rouault, bonjour tout le monde.
En forme Peggy?
En très grande forme.
Ça n'est que le début.
Oui, c'est ça, c'est pour ça.
Le début du week-end. Allez, tiens, pour commencer ce week-end, une fois n'est pas coutume, je vous propose un peu de musique et un peu de patriotisme.
Arrêtez d'insulter, c'est
mais
Nana.
Mais j'insiste pas.
C'est Nana.
Ah, c'est Nana Mouskouri.
Bien sûr, Nana Mouskouri. C'était hier à Athènes, au stade Panathénaïque, la Marseillaise de Nana Mouskouri, la flamme olympique officiellement entre les mains de la France. Ça y est, les JO, c'est vraiment parti. La torche va embarquer ce matin sur le Bellem, cap sur Marseille. Arrivée prévue 8 mai, on va suivre tout ça dans vos journaux ce matin. Passation ensuite à travers 450 villes. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, sera notre invitée à 8h40. Venez un peu nous dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent à l'approche de ces JO. Mais peut-être que vous vous réjouissez et que vous avez hâte que ça commence aussi. On vous attend ce matin, évidemment, au 32-16.
On reviendra aussi sur ce qui s'est passé hier à Sciences Po Paris. Oui.
L'établissement de la rue Saint-Guillaume qui n'est plus bloqué depuis hier soir. Les étudiants pro-Palestine ont trouvé un accord avec leur direction. Sauf que la manifestation d'hier laisse un goût amer au président d'Université de France. Pas Sciences Po, les facs, les universités, nos étudiants ne doivent pas être instrumentalisés à des fins politiques. Voilà ce qu'ils écrivent dans une tribune au journal Le Monde. Parmi les signataires, Michel Deneken, il est président de l'Université Strasbourg. Il sera avec nous à 7h40. Pour lui, Sciences Po Paris n'est plus ce qu'elle était. Elle ne représente plus l'élite française, le prestige. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous réagissez aussi au 32-16 ce matin.
Et puis, on va ouvrir un beau bouquin ce matin.
S'il vous plaît, c'est la fête des librairies indépendantes. En France, aujourd'hui, le thème cette année, les poèmes, la poésie.
Les jeunes qui lisent de moins en moins 19 minutes par jour en moyenne contre, écoutez bien, 3h11 passées derrière les écrans.
Et c'est bien le problème. Alors, est-ce que c'est peine perdue de leur donner le goût de la lecture? Comment vous faites, vous, à la maison commencer, je sais pas, BD, manga.
Comment vous faites, vous, avec votre fils?
Eh ben, ils lisent beaucoup. Je suis désolé de vous le dire.
C'est tous non, les vous soirs. Lisez pour eux.
Ouais, bah oui.
On est d'accord. Ouais.
Mais ils réclament, et c'est.
Ça commence par là, peut-être.
C'est des bouquins pour enfants, mais ça commence par là. Comment vous faites? C'est à vous de nous dire au 32-16 sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio et le Facebook Les Matins RMC. Samedi 27 avril, excellent réveil.
Vous êtes sur RMC, il est 6h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure des infos avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le verdict des agences Fitch et Moody's est tombé. La note de la France n'est pas dégradée, le gouvernement peut souffler. Fin du blocage à Sciences Po Paris, un accord a été trouvé. Et puis on va parler lecture à l'occasion de la fête des librairies indépendantes.
D'abord, cette décision qui était très attendue et qui est donc tombée hier soir. Les agences de notation Fitch et Moody's ont rendu leur avis sur la note de la dette de la France.
Alors que le dérapage des finances publiques laissait craindre le pire, finalement les notes n'ont pas changé. Le gouvernement échappe à la sanction de Fitch et de Moody's. Cyprien Pézeril, c'est une bonne nouvelle pour l'exécutif.
Alors que certains dans la majorité craignaient de passer un week-end particulièrement désagréable, c'est le soulagement. Dans un communiqué publié dès l'annonce des résultats, Bruno Le Maire dit prendre note des décisions de Fitch et Moody's, le ministre de l'économie qui rappelle le cap d'un déficit public sous les 3% en 2027. Pour cela, dit-il encore, il faut redoubler de détermination, comprendre, poursuivre dans la droite ligne des 20 milliards d'économies déjà annoncées. Des notations qui évitent au gouvernement de subir les attaques des oppositions. La droite l'accusait le mois dernier de mener la France sur la même trajectoire que la Grèce. Pourtant, dans l'exécutif, pas de triomphalisme. Une autre notation est bien plus redoutée, celle de l'agence Standard & Poor's, attendue le 31 mai, quelques jours avant les élections européennes.
Le blocage de Sciences Po Paris a été levé hier soir aux alentours de 21h.
Alors qu'un accord entre le responsable de l'établissement et les étudiants mobilisés pour la cause palestinienne a été trouvé, la direction s'engage à organiser un débat interne d'ici jeudi. Toutes les questions pourront être posées, notamment celles sur les partenariats de l'école. La direction suspend aussi les procédures disciplinaires contre les manifestants, uniquement celles lancées depuis 10 jours. Hier après-midi, des tensions ont éclaté devant l'établissement entre des étudiants pro-palestiniens et des militants pro-israélien. La police est intervenue après des bousculades qui ont duré une vingtaine de minutes. Et les étudiants ont reçu la visite de Rima Hassan, candidate de la France insoumise aux élections européennes, venue les soutenir.
Je crois que c'est un symbole qui est extrêmement fort. Les étudiants ont véritablement embrassé une cause et ils ont raison de le faire parce que c'est une cause qui est universelle, c'est une cause qui fait écho à la question de la décolonisation, c'est une cause qui est aussi antiraciste. Elle s'inscrit en réalité, je crois, dans les luttes qui sont au cœur de leur génération. Les étudiants sont pleinement à leur place pour dénoncer ce qui est en cours. Nous, notre responsabilité, c'est de venir écouter ce qu'ils ont à nous dire et ensuite, c'est de répondre à ça. Donc voilà, notre rôle, c'est de les soutenir.
À retenir également ce matin dans l'actualité, un mineur mis en examen au Mans soupçonné d'avoir envoyé une fausse alerte d'attentat terroriste à 180 centres d'information et d'orientation en France. C'était il y a 2 semaines, Lucille Pascanet.
Dans son mail, il annonçait vouloir tuer des mécréants au nom de l'État islamique. Les 180 centres visés avaient été évacués et sécurisés. C'était finalement une fausse alerte, mais avec un préjudice bien réel. En 2 semaines, les enquêteurs mobilisés sur ce dossier localisent l'origine du message. Mercredi, un jeune homme est interpellé chez lui au Mans. L'adolescent a avoué les faits sans mesurer les conséquences de ses actes. Dans son mail, il évoquait des grenades, des ceintures explosives et des fusils d'assaut, mais aucune arme n'a été retrouvée chez lui. Il ne présente aucun signe de radicalisation, souligne le procureur. Ce mineur français né au Mans a stoppé ses études à la fin de la seconde. Il occupe désormais son temps avec des jeux vidéo et de la musculation. Il a été placé sous contrôle judiciaire avant son procès début juillet.
Il comparaîtra devant le tribunal pour enfants le 4 juillet prochain. À retenir également ce matin, après les fortes perturbations sur la ligne à grande vitesse entre Paris et la région Grand Est hier après-midi, le retour à la normale était en cours hier soir, même si des retards sont toujours prévus aujourd'hui. En cause, une panne d'une caténaire à hauteur de Châlons en Champagne. Je n'y suis pour rien, promis.
C'est sûr ?
Panne. Panne qui a fortement perturbé le trafic hier, jusqu'à 6 heures de retard sur les tableaux de départ. Et tout cela en pleine vacances scolaires. Une pensée à celles et ceux qui se sont galérés hier et qui se galéreront peut-être encore aujourd'hui puisque ce n'est pas fini. L'événement de la matinée à suivre sur RMC, c'est évidemment le départ de la flamme olympique ce matin du port du Pirée à Athènes. Départ prévu 10 heures pour un voyage de 12 jours direction Marseille où le nageur Florent Manaudot sera le premier relayeur. On y reviendra avec Amélie Oudéa-Castéra à 8h40 ce matin. La ministre des Sports sera votre invitée, Mathieu.
Et avant cela, pour l'heure, il est 6h35 sur RMC et c'est peut-être un soir de sacre pour le PSG.
Les Parisiens ont besoin d'une victoire contre le Havre pour devenir champion de France pour la 12e fois. PSG Le Havre à suivre à 21h ce soir sur RMC. Hier, en ouverture de la 31e journée, Montpellier et Nantes se sont séparés sur un match nul, un partout. Le rugby, un choc en top 14 aujourd'hui pour débuter la 22e journée avec Toulouse, deuxième du championnat, qui reçoit le Racing, troisième à 15h, à 17h, Lyon-Pau, Bayonne-UBB, Oyonnax-Castres et Montpellier-Perpignan. Un derby bouillant entre deux équipes aux trajectoires opposées. Perpignan est en forme alors que Montpellier lutte pour se maintenir, Julien Landry.
Oui, vous entendez Quantem Mes Forte qui résonne avant chaque match, Aimé Giral, repris en chœur par les supporters, et cette hymne, on pourrait l'entendre cet après-midi à Montpellier, car les Catalans se sont mobilisés en nombre pour ce déplacement. Il devrait être 4000 à prendre place au GGL Stadium, une aide précieuse pour le manager de l'USAP, Franck Azéma.
Je sais qu'on va avoir de la voix, je me souviens à Oyo avec 500 que ça a poussé fort. Ben, ça fait partie des choses qui font plaisir et qui stimulent sur le match.
Ils auraient pu être encore plus nombreux, mais face à la forte demande, le MHR avait fermé sa billetterie pour privilégier les abonnés. Le match, en tout cas, sera à guichet fermé pour la première fois depuis avril 2022. et Patrice Collazo, manager du MHR, rappelle le rapport de force.
Il y aura 10 000 et 11 000 Montpellier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que surtout le public de Montpellier se mobilise. Ça doit aussi lancer, comme vous avez dit, notre sprint final.
Un sprint final où le droit à l'erreur est interdit, une défaite, et Montpellier sera quasiment obligé de jouer un match de barrage pour maintenir sa place en top 14.
Voilà, puis à 21h, Clermont reçoit le leader, le Stade français, le rugby féminin aussi. Il va faire le plein cet après-midi. Plus de 27 000 personnes attendues dans le Stade Chaban-Delmas à Bordeaux pour France-Angleterre. Le choc du tournoi des Six Nations, c'est un record en France et c'est à suivre dès 17h45 sur RMC.
Et c'est aujourd'hui la fête de la librairie par les libraires indépendants.
Oui, 26e édition fêtée par 650 librairies partout en France avec à l'honneur les poèmes. Cette année, l'occasion à travers cette journée de valoriser les libraires. Et on a de plus en plus dans des communes situées à la périphérie des grands centres urbains ou en milieu rural. Illustration dans le département de la Haute-Garonne à 25 km de Toulouse. C'est un reportage de Jean-Wilfried Forquès.
Saint-Lys, 9000 habitants, sa halle, ses commerces et sa librairie.
Bonjour, bienvenue à la librairie Il était une fois.
Brigitte est une habituée.
J'aimerais un livre pour un petit qui est en CP.
Et c'est Annabelle, l'une des libraires, qui a trouvé la perle rare.
Alors c'est Pyjama Party de Malika Doré, paru dans la collection Mouche à l'école des loisirs.
Et si Brigitte pousse la porte de la librairie, ce n'est pas que pour les conseils.
C'est vraiment un lieu de rencontre, la librairie. On parle de livres et d'autres choses aussi, parfois prendre un petit café, leur dire un petit coucou.
Pour Isabelle Cobé, la gérante, la mission est très simple.
C'est d'être à proximité de nos lecteurs et de nos lectrices, qui n'auront pas à faire 25 km pour aller à Toulouse, qui n'auront pas à aller sur Internet pour commander en ligne.
Et la librairie est également un plus pour les commerçants de la ville, comme le note Mélisande, opticienne.
La librairie, ça nous apporte un échange entre nos clients et ça permet de consommer en local.
La librairie Il était une fois, la seule de la commune, existe depuis 30 ans et compte près de 12 000 livres.
Est-ce que vous aimez vous rendre dans les librairies? Tiens, autour de la table, Peggy, Anaïs, la dernière fois que vous êtes allée en librairie, c'était il y a longtemps?
Ah oh bah moi j'y vais toutes les semaines.
Non, l'élève parfait.
Non, pour les enfants évidemment.
Moi j'y vais souvent pour mon neveu et ma nièce. Ouais, c'est vrai.
Avec lui. Ça c'est bien parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça se joue. Le goût de la lecture, aimer lire. Et on va beaucoup en parler ce matin avec vous au 32-16 parce que les jeunes lisent de moins en moins. Je le disais, 19 minutes par jour, c'est déjà pas mal. On peut se dire c'est déjà pas mal 19 minutes par jour. Sauf que c'est une moyenne et que en moyenne ils passent aussi 3 heures et 11 minutes par jour
sur les écrans.
Devant les écrans. Ouais. Tiens, Mario est déjà avec nous pour en parler ce matin.
Bonjour Mario.
Bonjour Mario. Mario, vous êtes avec nous?
Vous allez bien?
Salut Mario. Allô. Depuis le Gard, Mario. Vous aimez lire?
Moi, j'adore lire. Bon, je ne suis pas très roman, mais j'adore lire tout ce qui est livres d'histoire, sur les insectes, la faune, la flore, et surtout les nouvelles études qui sortent scientifiques sur à peu près tout, pour éviter qu'on reste sur un paradigme d'évolution obsolète.
Connaissance encyclopédique alors, Mario, c'est ça qui vous attire?
Ouais, voilà, j'ai un peu de tout et beaucoup de rien, comme on dit chez moi.
Et vous allez souvent en librairie, du coup, ou comment vous faites? Ou alors vous les commandez, les livres?
Non, moi je vais souvent à la bibliothèque.
Et oui.
Ah, d'accord.
Je prends moins d'abonnements, parce que j'ai une bibliothèque dans ma ville, c'est très bien. Et par contre, après, quand je entends des histoires sur les exemples d'une sortie, comme on a entendu sur Arte l'autre fois, j'ai vu un reportage sur l'évolution des hommes. Et en vérité, on était sur un paradigme de 30 000, les premiers hommes aux Amériques étaient arrivés 30 000 ans avant. Et donc, ça m'a donné envie de parler avec ces gens-là, puisque c'est un anthropologue, c'est un scientifique qui était français. Donc, je leur ai envoyé des mails à leur où ils travaillaient. Et ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé leur étude.
Ça, c'est super, Mario, parce que c'est comme ça qu'on crée le lien, qu'on a encore plus c'est envie de lire. Les bibliothèques, les médiathèques organisent beaucoup d'événements comme ça. Voilà. Les librairies aussi. Est-ce que vous croisez beaucoup de jeunes dans les bibliothèques que vous fréquentez?
Alors, dans les bibliothèques, oui. C'est beaucoup des jeunes, mais beaucoup de jeunes entre 10 ans et 15 ans. En dessus, c'est bizarre, il y en a de moins en moins.
Ça se perd, ça correspond à l'âge où on commence à avoir le portable.
Voilà, et quand on voit ces jeunes-là, ils ont tous un point commun, c'est qu'en vérité, chez eux, ils ont, c'est très réglementé, d'après ce que j'entends parler de beaucoup de jeunes, c'est que la télé chez eux, elle est juste là quand les parents ils sont là et c'est allumé, quand ils sont pas là, la télé elle est fermée dans un placard. Et ils doivent apprendre à grandir leur cerveau par eux-mêmes. Ça veut dire, c'est excellent. Je vous conseille de lire, on a un ami en commun sur RMC, c'est Étienne Lédigue, et oui. le complexe de Bip. pour reprocher aux parents, en vérité, que leur inaction, ça peut créer des problèmes chez leur enfant. Ça veut dire qu'il faut faire apprendre à grandir l'enfant par lui-même, non pas lui faire donner des règles pour lui faire du mal, mais plutôt pour le faire grandir intelligemment.
Eh ben, écoutez, Mario, vous avez lancé le débat. On ne pouvait pas faire mieux qu'avec vous ce matin. Venez nous partager vos conseils de lecture, vos envies, vos goûts de lecture et surtout vos astuces pour donner envie aux jeunes. Merci, Mario. Bonne journée depuis Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Soyez les bienvenus. C'est l'heure des courses, 6h41.
Les courses RMC.
Le dernier bruit, le cheval sur lequel il faut miser.
La Dream Team est là. Bonjour, Dimitri Blanc-L'Œil.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Le quintet aujourd'hui à Auteuil.
Et oui, effectivement, la grande course de Haie d'Auteuil, c'est un groupe 3, voilà, une épreuve plutôt intéressante.
Départ 15h15, oui, c'est de l'obstacle, c'est toujours assez incertain.
Oui, effectivement, alors là, c'est sur une épreuve en haie, cette fois-ci, ce n'est pas du steeple. Ils sont 18 en plus à s'affronter, donc le plateau est assez grand et ils vont en découdre sur 4300 mètres.
Alors, qui nous conseillez-vous? Quel numéro?
Alors, au niveau de la base, j'aime beaucoup le numéro 1, Irish Vocation. On va essayer de le faire avec l'accent, voilà. Qui est très régulier. Il reste sur deux sorties très intéressantes à Auteuil. Évidemment, ça serait une déception de ne pas le voir jouer un premier rôle.
L'As Irish Vocation avec l'accent, si vous le voulez. Est-ce que vous avez un deuxième choix, Dimitri?
Eh ben, on va le faire aussi avec l'accent. Le 4, Alentejo.
Dites-moi, LV2, hein?
Oui, j'ai tout fait, moi. Alentejo, numéro 4, tout simplement, puisqu'il a terminé deuxième dernièrement, aussi sur l'Hippodrome d'Auteuil, qu'on pourrait qualifier d'une course de référence. Il a très bien couru ce jour-là, et il se retrouve évidemment bien placé pour jouer lui aussi les premiers rôles, l'As et le 4.
Dimitri Blanc-L'Œil, trilingue, français, anglais, espagnol, vous l'aurez compris. Merci Dimitri, à demain.
Merci.
Et merci, tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr. Et
évidemment, vous avez l'habitude. Ah tiens, un petit passage par la Drôme. Myriam est là. Bonjour Myriam.
Bonjour Myriam.
Bonjour tout le monde, vous allez bien?
Bah ça va, et dites donc, ça se bouscule au portillon ce matin. Hein. Mario bah, depuis oui. Le Gard, Myriam depuis la Drôme. Voilà. Déjà réveillée pour le boulot, Myriam?
Bah bien sûr Mathieu.
Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous me manquez là
bah,
Myriam?
Oui. Bah vous étiez parti un peu en vacances.
Et vous? Bah pareil.
Non, moi je travaille.
Ah bon, c'est sûr? C'est pas vu, parce que j'ai vu un message le week-end dernier ou celui d'avant, un petit bonjour depuis les Pyrénées-Atlantiques.
Oui,
Pyrénées-Orientales.
Alors j'étais en train de travailler, Mathieu.
Ah, d'accord.
Parce que nous changeons de vie avec mon mari.
Non, c'est vrai?
Oui.
Vous avez déménagé?
Oui. Non, bah, je sais pas où on va aller en fait. Et on vend le fonds de commerce.
D'accord.
Et nous, on essaye de faire des remplacements des collègues qui veulent partir en vacances.
Ok, Myriam. Et c'est voilà. Quoi le projet à l'arrivée alors?
Bah, c'est de faire les remplacements de vacances des collègues qui ont un magasin.
D'accord.
Pour on va chez eux et on les remplace.
Bon, bah, c'est pas mal ça, Myriam. Vous allez découvrir toute la France alors?
Pour l'instant, on va se concentrer dans le sud-ouest, hein, et okay. Puis après, on verra.
Le nord, on verra après.
Ouais.
Et mon mari, là, actuellement, est en déplacement à Cannes.
Ah, bah, sympa. Et pas mal, Myriam.
Lui,
là, on a tout le bandeau méditerranéen. Hein.
Et moi, j'étais dans les PO la semaine dernière.
Les PO, et... ça y est, vous êtes déjà intime avec ce département.
Ouais, mais enfin, j'y ai vécu 10 ans dans les PO, donc.
D'accord.
Et
Myriam.
Les pauvres, ils ont la sécheresse.
C'est terrible, c'est terrible. Ah, c'est le département français le plus touché.
C'est même pas terrible pour eux, c'est... Mais donc je suis revenue un petit peu dans la Drôme et je vais repartir après, voilà.
Eh bien Myriam, donnez-nous au courant de...
Il y a des gens qui écoutent RMC, qui ont des petits magasins qui veulent partir en vacances, ils appellent RMC et
on vous
leur donne mon numéro.
Eh bien voilà Myriam, c'est comme ça que ça marche. Merci de ce petit bonjour, c'est toujours un plaisir.
Mais de rien, et puis bon week-end à tous.
Et merci Myriam, à bientôt.
Et bisous à mon mari qui doit m'écouter.
Eh ben ça marche, le message est passé. Bisous. Salut Myriam, 7h moins le quart.
À suivre dans la matinale week-end.
L'immobilier s'enfonce dans la crise. Les constructeurs de maisons font faillite les uns après les autres. C'est l'actu immobilier avec Marie-Cœur de Roy, 6h50.
D'abord, toute l'équipe est là et vous attend pour ouvrir la presse dans une minute.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, c'est parti, ça a bien commencé et ça va bien continuer. Restez sur RMC.
RMC,
Les histoires du week-end.
Tout le monde autour de la table pour vous réveiller, pour vous faire lire la presse. Anaïs Castagna est toujours là.
Oui, présente.
Peggy Broche est toujours là. Présente. Et nous accueillons Kevin Gasser. Bonjour Kevin.
Bonjour tout le monde.
Alors, on va commencer avec vous Anaïs. Le plat préféré des Français n'est plus celui auquel on pense ?
Alors, sur les réseaux sociaux. Alors attention, un classique de la gastronomie française ressort, a été élu plat préféré des Français sur les réseaux sociaux. Si je vous dis dessert, vanille, cassonade, et chalumeau.
Ah bah, crème brûlée.
Évidemment Mathieu, bien sûr, en tête d'un classement effectué par une plateforme de cours de langue. Pour parvenir à ce résultat, l'application a regardé le nombre de vues sur TikTok de différentes recettes françaises comparées au hashtag d'Instagram. Visiblement, c'est donc la crème brûlée qui ressort en 1 devant les crêpes bretonnes et le foie gras. On note que les internautes sont globalement plus sucrés que salés.
Ah bah ouais.
Seuls 3 plats salés arrivent dans le top 10. Le foie gras, donc, en 3, la raclette en 5 oh oui. Et le croque-monsieur en 8e position.
Non mais dites-moi, enfin, les réseaux sociaux, c'est pas la France. Hein. Je suis désolé.
Pourquoi
de vous dire.
C'est quoi votre plat préféré ?
Mais non, mais ça a toujours été steak frites. Pendant très longtemps, il y a eu couscous en plat préféré des Français.
Oui, c'est vrai.
Le bourguignon.
Non mais là,
le
oui. Oui, non mais là, c'est ça. D'un coup, exactement. D'un seul, c'est brûlé. Bah oui, c'est les réseaux sociaux. Vous savez, c'est aussi tout ce qui est
Instagrammable,
exactement.
Bien sûr. Tiens, Kevin, vous nous emmenez-vous en Savoie ce matin dans une station thermale où le séjour des clients d'un hôtel a tourné au vinaigre.
Oui, c'est dans un hôtel de la Léchère. C'est une commune donc, qui s'appelle la Léchère. Les stations thermales sont faites pour se mettre au vert, se ressourcer, respirer à plein poumon, normalement. Mais c'est sans compter cette odeur pestilentielle qui envahit l'établissement mercredi, ce mercredi.
Pourquoi ça pue ?
Au point que 44 personnes ont dû être évacuées. Alors là, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que ça sentait ? Eh bien, une forte odeur nauséabonde, irritante, un mélange de poisson pourri et de produits chlorés qui serait remonté par les canalisations, rapportent nos confrères de France Bleu, Pays de Savoie.
Quoi, il est pas frais ? Sentez-moi ça ! Si. Il est frais, mon poisson !
Oui, une odeur telle que 4 personnes ont même dû être hospitalisées pour des maux de tête. Et un important dispositif de pompiers et de gendarmes a même été déployé. Mais la piste d'une intoxication collective a été écartée et tout le monde a pu regagner l'hôtel à la Léchère. Comme on dit chez moi en Alsace, c'est un problème qui n'a pas été pris à la Léchère.
Joli ! Elle est pas mal ! Avec l'accent, bien sûr. Moi, ça me permet de saluer Pierre, notre poissonnier qui nous écrit ce matin sur l'appli RMC comme tous les jours. Oui Pierre, votre poisson il est frais. Et Sylvain depuis le Pas-de-Calais où c'est l'ouverture de la pêche au brochet. Ben, on espère que ça sentira bon là-bas aussi. On termine en Suisse, Peggy, avec l'histoire de cette veuve.
Ah oui, cette pauvre femme condamnée, écoutez bien, à payer une pension de 14 000 euros par mois à la première femme de son défunt mari, qu'elle doit sûrement beaucoup moins pleurer aujourd'hui. Alors cet homme, écoutez bien, versait 14 000 francs suisses tous les mois depuis 29 ans.
Incroyable.
À sa première femme, c'est juste hallucinant. Et à son décès en 2022, sa femme actuelle a décidé d'arrêter ça. Elle s'est dit, bon, ça suffit maintenant, estimant ne plus rien lui devoir, sauf que le pauvre homme est mort et que la première femme n'a pas vu les choses de la même manière exactement.
Prudence.
Et donc du coup elle est allée à la Cour suprême du canton Zurich, verdict, la deuxième femme est dans l'obligation d'entretenir la première. Un truc de dingue.
Au secours.
Oui, au secours. Et mais elle ne s'est pas laissée démonter, elle a saisi à son tour le tribunal fédéral. Mais rien à faire, la justice a acté le fait que la deuxième femme a évité des obligations de son mari. Jusqu'à la fin de ses jours, s'il vous plaît. Alors, si vous devez vous marier,
pensez-y à 4 mois.
Exactement, surtout si la personne a déjà été mariée. Ou si
ça marche en France,
ou je sais pas.
Ça marche en France, ça.
C'est horrible.
Ah ouais.
C'est horrible.
Franchement, ça va. Ouais.
Personnellement, j'espère pas. Imagine devoir entretenir tous les ex et tout. À un moment, ça va bien. Hein. 14 000 balles chacun.
Vous imaginez ?
Ouais, bah ouais. Moi, vous le feriez, vous, Anaïs ?
Bah non, évidemment.
Ouais. On est bien d'accord. Allez, restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, Marie-Cœur de Roy arrive avec l'actu de l'immobilier.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Ah, 6h52. Avec ce retour surpuissant ce matin sur RMC, celui de Justice. Dans le bonus dans 2 minutes.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main IMO.
Avec Marie Cœur de Roy, toutes les questions IMO que vous vous posez.
Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Avec vous ce matin, une nouvelle preuve de la crise du logement. Les constructeurs de maisons commencent à faire faillite. Le dernier en date, AST Group, l'un des plus gros acteurs du secteur, annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée. Est-ce qu'on doit s'attendre à des faillites en cascade, Marie?
Bon, on va pas se mentir, Mathieu, il y a de quoi s'interroger. On avait déjà eu la faillite de Geoxia, vous savez, le propriétaire des fameuses maisons Phoenix. Bon, alors à l'époque, c'était plus le business model, la gestion financière de l'entreprise qui posait problème. Concernant AST Group, la société, elle a pas vraiment encore mis la clé sous la porte, elle tente justement de survivre. Pour elle, en fait, ce sont les chocs de ces dernières années qui l'ont fragilisée. Et vous les connaissez, ces chocs. Crise de la demande liée au coût du crédit et au recalibrage des aides à l'achat. Je vous rappelle la disparition du prêt à taux zéro pour l'achat de maisons neuves, justement. Crise de l'offre liée au manque de terrain et à leur coût. Mais ce qui a accéléré la chute, c'est avant tout l'inflation. C'est ce que nous dit un acteur du secteur. Lui, il estime que les petits constructeurs qui bâtissent une centaine de maisons par an sont les plus fragilisés. Il cite notamment Batidur à Limoges ou encore Iloft dans les Côtes d'Armor, eux, ils n'ont pas pu échapper à la liquidation et il y aura encore des défaillances, c'est ce que nous dit un constructeur du centre de la France.
Mais alors, si j'ai envie de faire construire ma maison, comment je sais aujourd'hui si l'entreprise va être en mesure d'honorer le contrat, d'aller jusqu'au bout?
Ouais, c'est la question, va bien falloir se renseigner sur la société que vous allez choisir. Alors, vous pouvez le faire via le site du ministère de l'Économie ou Infogreffe avec 2F.fr. L'entreprise existe-t-elle vraiment? Depuis combien de temps? Vous pouvez aussi obtenir des informations financières, savoir s'il y a des procédures en cours. Ces recherches, elles pourraient vous permettre d'éviter, par exemple, de faux constructeurs. Ce sont clairement des escrocs qui sont susceptibles de vous faire signer des contrats sans aucune garantie. Alors, sur le contrat, justement, le meilleur cadre juridique, ça reste le CCMI. Comprenez, contrat de construction d'une maison individuelle. La bonne nouvelle, c'est que ce contrat, c'est le plus répandu. Sachez qu'il existe aussi le contrat de maîtrise d'œuvre, qui permet certes d'avoir au départ des tarifs moins élevés, mais attention aux clauses et au manque de garantie. Enfin, au-delà de l'aspect contractuel, vous pouvez aussi visiter les chantiers en cours du constructeur qui vous intéresse.
Il faut lire les petites lignes, quoi, s'assurer qu'il y a une garantie de construction jusqu'à la fin.
Et alors, Marie, si jamais c'est trop tard, si mon constructeur fait faillite en cours de chantier?
Justement, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont signé avec un constructeur de maison classique sont nécessairement passés par le fameux CCMI dont je vous parlais. Et ce contrat, il garantit la livraison de la maison à prix et délai convenu. Il prévoit aussi qu'en cas de faillite, le chantier sera poursuivi et terminé par d'autres professionnels sans surcoût ni retard. Bon, sur le timing, soyons honnêtes, il y a peu de chances que les délais soient tenus. Mais pour le reste, c'est ultra sécurisé. C'est le garant de l'entreprise défaillante qui s'en assure. Il y a un constructeur qui me racontait d'ailleurs que si les nouveaux artisans constate une malfaçon sur ce qui avait déjà été commencé, bah le garant va jusqu'à demander la démolition pour faire repartir la construction sur de bonnes bases. En clair, si vous savez signer le bon contrat, qui est fort heureusement majoritaire, la faillite de votre constructeur ne signera pas la fin de votre projet immobilier. Pour les quelques autres, en revanche, vous devrez vous trouver d'autres prestataires et tout ça à vos frais.
Merci Marie-Cœur de Roy. Le coup de maïmo à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
7h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous, Peggy. Le grand retour de Justice.
Eh oui, le duo électro-français signe son retour après 8 ans d'absence. Enfin, voici un quatrième album qui est disponible depuis hier. Il s'appelle Hyper Drama, un album au rythme disco et électro. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils prennent leur temps, hein, Xavier Doronet et Gaspard Auger. Ils aiment ça et le résultat est excellent parce que j'ai pris le plaisir d'écouter l'album hier. En début d'année, les fans ont pu découvrir deux titres de cet album, dont un avec le chanteur du groupe australien Tame Impala. Voilà, Kevin Parker. One Night, All Night ou encore le titre Generator, totalement différent. Et plus récemment, sont sortis Incognito et Saturnine.
On les reconnaît quand même bien.
On les reconnaît bien, mais les ambiances sont différentes sur chaque titre. Et alors, chaque morceau a un univers propre avec la French Touch qu'on connaît, à l'instar des Daft Punk. Le duo Justice, qui s'est révélé au début des années 2000, a pensé cet album comme un opéra gabber. Alors, c'est un style de musique électro rapide des années 90 à Rotterdam. C'est à la fois dansant, mélancolique, parfois violent, ténébreux, puissant. En fait, connu en France et aux États-Unis, Justice a ouvert le festival de Coachella aux États-Unis, c'était à Los Angeles il y a quelques jours.
Ils ont continué par le Mexique et puis il y a plein d'êtres prévus pour cet été. Notez déjà le 1er juin, ce sera à Paris au festival Wheel of Green, une tournée estivale en Europe et aux États-Unis et 17 et 18 décembre 2024, deux concerts exceptionnels à l'Accor Arena de Paris.
Et en attendant, c'était parfait pour nous réveiller ce matin sur RMC. Soyez les bienvenus les amis, bientôt les infos de 7h.
La matinale week-end.